L'auteur américain, l'auteur de Moon Palace, avait 77 ans. La mesure entre en vigueur en cette fête du travail. Il faudra désormais mettre 100 euros de sa poche pour se former grâce à son compte personnel.
Et en ce 1er mai à 7h40, je reçois ce matin le président de l'UDP. C'est l'organisation patronale des artisans, commerçants et professions libérales qui seront pour beaucoup sur le pont aujourd'hui. Ça représente 2 entreprises sur 3 en France, près de 4 millions.
Aux États-Unis, l'évacuation manu militari des étudiants pro-Palestine de Columbia. Et puis le football, Paris à l'assaut du mur jaune de Dortmund, demi-finale allée de Ligue des Champions à 21h sur RTL.
On a hâte, hein. Et puis à 8h20, ne manquez pas Didier Pleu. Le psychologue publie L'autorité éducative, une urgence. C'est un sujet au cœur de l'actualité et on vous en parle tous les jours, vous le savez bien.
RTL Matin.
La littérature américaine perd donc l'un de ses plus grands noms. On a appris il y a une heure la disparition de Paul Auster. Bernard Lehu, le grand écrivain, avait 77 ans.
Oui, et il luttait depuis plus d'un an contre un terrible cancer du poumon. Paul Auster est mort dans sa maison de Brooklyn. Et Brooklyn, New York, il l'a raconté comme personne avec ses marginaux, ses personnages pittoresques, notamment dans 3 volumes qui forment la trilogie new-yorkaise. C'est son œuvre la plus célèbre. Paul Auster était également scénariste, réalisateur de plusieurs films, Smoke, Brooklyn Boogie et Lulu on the Bridge.
Et Bernard, Paul Auster était aussi très populaire en France.
Mais oui, la France qu'il chérissait, lui aussi, francophile, parfait francophone. Il a traduit d'ailleurs aux États-Unis de grands auteurs comme Georges Simenon. Et jeune homme, Paul Auster a vécu 3 ans à Paris et à Angers. Et sur son bureau, à Brooklyn, il avait gardé de ses séjours en France un fossile comme le symbole du lien privilégié, indéfectible, que Paul Auster entretenait avec ce pays qu'il aimait tant, la France.
Bernard Lehu, spécialiste littérature de RTL, et donc la disparition à 77 ans ce matin de Paul Auster.
Il est 7h01 sur RTL. 150 000 personnes sont attendues aujourd'hui dans les cortèges du 1er mai.
On est loin des près de 800 000 comptabilisés l'an dernier par le gouvernement en pleine contestation contre la réforme des retraites. Et en cette fête du travail, justement, l'un des changements de ce début de mois concerne votre compte personnel de formation. Désormais, il faudra mettre la main à la poche, Mathilde Piquet. On va essayer de comprendre ça ce matin avec vous sur RTL. Qu'est-ce qui va changer ?
Vous devrez désormais débourser 100 euros pour suivre une formation au titre de votre CPF. Jusqu'à présent, le compte personnel de formation permettait à tous les actifs de plus de 16 ans de cumuler des droits à la formation continue jusqu'à 500 euros par an. Vous pouviez ensuite passer gratuitement votre permis de conduire ou suivre des cours de langue étrangère. Seulement voilà, le gouvernement veut réduire les dépenses. Il va donc falloir contribuer avec à la clé une économie de 200 millions d'euros dès cette année pour les caisses de l'État. Alors il y aura des les formations resteront gratuites si vous êtes en reconversion ou en recherche d'emploi. Votre employeur pourra aussi financer votre reste à charge. D'autres changements sont déjà dans les tuyaux. Dans les prochaines semaines, vous ne pourrez plus passer votre permis moto avec le CPF si vous avez déjà le permis voiture.
Mathilde Piquet du service économie de RTL. Pas d'affolement demain si vous entendez les sirènes d'alerte à la mi-journée. À cause du 1er mai férié, les tests mensuels du premier mercredi du mois sont reportés.
Aux États-Unis, les étudiants pro-palestiniens de Columbia évacués par la police cette nuit.
Ils étaient des dizaines à occuper un bâtiment de la prestigieuse université. Karine Otton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Une évacuation musclée, manu militari.
Un véhicule renforcé, quasiment blindé, impressionnant, qui s'est approché de Hamilton Hall. À l'intérieur, on le sait, une 60aine d'étudiants au moins s'y sont barricadés. Ils ont utilisé des distributeurs de boissons, des bancs, des tables pour bloquer les accès. Mais les policiers ont réussi à s'introduire par une fenêtre du 2e étage, depuis une rampe d'accès fixée sur le toit du camion. La police assure ne pas avoir utilisé de gaz lacrymogène, mais des grenades paralysantes pour les disperser. Pas tellement de résistance ou de violence non plus selon les images auxquelles on a pour l'instant accès. On a vu des dizaines d'étudiants mains nouées derrière le dos se faire fouiller avant d'être embarqués dans des bus de police. Et après l'évacuation du bâtiment occupé, la police a commencé à démonter les tentes plantées sur le campus depuis 13 jours. Ce campement d'où tout le mouvement de protestation était parti.
Karine Otton, correspondante de RTL aux États-Unis. La présidente de Columbia demande le maintien de policiers sur le campus pour au moins 2 semaines. Côté diplomatique, cette fois, Israël laisse jusqu'à ce soir au Hamas pour donner une réponse à la proposition de trêve à Gaza. Mais accord ou pas, le premier ministre Benjamin Netanyahou promet de mener son offensive dans Rafah, considéré comme le dernier bastion du Hamas dans l'enclave. Au moins 3 morts et 3 blessés cette nuit dans une attaque russe à Odessa, au sud de l'Ukraine. En 7 mois d'offensive, Moscou a repris plus de 500 km². RTL y revient dans le journal de 8h.
Les élections européennes, c'est dans un peu plus d'un mois. Maintenant, le 9 juin, je le rappelle, les candidats, eux, comptent bien profiter de ce 1er mai pour accélérer leur campagne.
Le Rassemblement national en tête des sondages dévoilera cet après-midi à Perpignan ses 34 premiers colistiers. Chez les écologistes, cette fois, Marie Toussaint a présenté son programme hier soir. La candidate donnait pour l'instant à 6% des intentions de vote selon notre dernier baromètre Tolona Harris Interactif pour RTL. Et Marie-Bénédicte Allaire, son programme s'organise avec 10 combats pour la justice et le vivant.
Oui, comme le résume Marie Toussaint, il s'agit de promouvoir un État-providence écologique européen en favorisant par exemple la santé du consommateur grâce à une TVA réduite pour acheter des produits sains et locaux, notamment pour l'hygiène.
Grâce à l'action européenne, nous voulons une TVA à taux plus bas, voire à taux nul pour tous les produits qui sont faits en Europe et qui sont bons pour la santé. Ça permettra aussi de créer de l'emploi, d'améliorer le pouvoir d'achat. En gros, tout le monde y gagne.
Les écologistes veulent aussi obliger les assurances à prendre en compte les risques climatiques comme les fissures sur les maisons, et mettre en place une protection sociale climatique partout en Europe. Et puis, il propose également de redonner un véritable poumon vert à l'Europe grâce à la forêt Marie Toussaint.
Une forêt dans laquelle on pourrait se balader, bien sûr, mais une forêt qui serait libre de toute exploitation industrielle visant à faire du profit. Une forêt dans laquelle la biodiversité pourrait se redéployer et ça pourrait être magique que de se balader dans cette forêt.
Cette forêt pourrait, pour commencer, se développer entre la France et l'Allemagne.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL notait que le tout premier débat des 7 têtes de liste dont le parti est déjà présent au Parlement européen aura lieu sur RTL. Ce sera dimanche, grand jury spécial européenne.
Et vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire, pour voter pour ces élections européennes. Formulaire disponible en mairie sur Internet, c'était jusqu'à aujourd'hui.
L'État va prendre en charge 50% du prix du péage de la 14 pour ceux qui font du covoiturage. Ce sera pendant toute la période de fermeture de la portion accidentée de la 13, au moins jusqu'au 11 mai. Donc, cela fonctionnera dès que deux personnes se trouvent dans une voiture.
Et on en vient au football. 1er mai ne rime pas toujours avec jour férié au Paris Saint-Germain.
Les Parisiens aux portes de la finale de la Ligue des Champions ce soir. Ils sont en Allemagne face au mur jaune de Dortmund pour la demi-finale aller. Ce sera à vivre sur RTL. Les deux clubs se sont déjà affrontés en phase de groupe sans que Paris ne soit battu. Un match que le PSG, tout juste champion de France, aborde donc dans des conditions idéales, Nicolas Georgerot.
Oui, troisième demi-finale en 5 ans, et dans les têtes parisiennes, ce ne doit être qu'une étape. Depuis les huitièmes de finale, il y a un élan, une dynamique confirmée par l'attaquant Gonçalo Ramos.
Nous sommes davantage une équipe. Nous sommes presque comme une famille. On croit en nos qualités. On est calme, confiant, on est prêt.
La saison ou jamais, le refrain revient souvent. Il y en a un qui ne veut pas laisser passer l'occasion d'une deuxième finale de Ligue des Champions. C'est Kylian Mbappé, auteur de 8 buts en 10 matchs dans la compétition.
Et celui qui a transformé cette équipe parisienne et qui lui a donné cette confiance, Nicolas, c'est l'entraîneur Luis Enrique.
Il a fixé un cap, il a convaincu surtout son groupe que tout était possible et il fait gagner ce PSG en équipe, ça veut dire beaucoup à Paris. Luis Enrique a conquis les supporters parisiens.
On a vraiment une équipe qui tourne, tout le monde joue, ça c'est ce qu'on aime bien. On n'a jamais vu ça au PSG et franchement j'aime cet entraîneur pour ça.
C'est sûr que ça change totalement le coach. On voit qu'il prend le contrôle, il ose sortir les grands joueurs. C'est ça sa force, c'est le collectif pour moi la force qui fait qu'on va peut-être gagner avec des champions cette année.
Frappé fort dès son arrivée dans un club, le technicien espagnol de 53 ans sait faire en 2015 pour sa première saison au Barça. Il avait réussi un triplé incroyable, championnat, Coupe d'Espagne et Ligue des Champions.
Mais gagner à Dortmund en Ligue des Champions, c'est pas facile, Nicolas, et ça, les clubs français le savent.
C'est certain, il n'y a que l'OM en 2011 et Monaco en 2017 à avoir gagné ici. Et ça fait presque 3 ans que Dortmund n'a pas perdu un match de Ligue des Champions dans son enceinte, alors que Manchester City, Milan, Chelsea par exemple sont venus récemment. Le PSG est donc prévenu.
Nicolas Georgerot, que vous retrouvez ce soir au commentaire de ce Dortmund-PSG, coup d'envoi 21h, soirée spéciale sur RTL dès 20h. Hier soir, dans l'autre demi-finale, le Real Madrid a arraché le nul face au Bayern Munich de partout. Match retour mercredi prochain. En tennis, Rafael Nadal éliminé du tournoi de Madrid après 3 matchs sans défaite. C'était une première depuis près de 2 ans. L'Espagnol de bientôt 38 ans a été battu en 8e par le Tchèque Jiří Lečeka, 7-5, 6-4. C'était, sauf rebondissement, l'ultime match de sa carrière dans la capitale espagnole.
Et puis les Français vont dépendre dépensé aujourd'hui près de 20 millions d'euros pour du muguet. 20 millions.
Hein. Et c'est le seul jour d'ailleurs de l'année où vous pouvez légalement jouer les fleuristes amateurs. Nicolas Bobby, vous êtes dans le centre de Vannes pour RTL et pour l'instant, c'est bien calme et on ne voit pas encore de clochettes dans les rues. Hein.
Ah oui, absolument, on voit pas de clochettes, même les mouettes dorment, quelques pigeons roucoulent en ce moment sur les toits des maisons à Colombages. Le spectacle est fabuleux car je suis au pied de la cathédrale Saint-Pierre. Alors c'est véritablement un très bon spot pour vendre les petits porte-bonheurs, mais voilà, bah, les vendeurs ne sont pas encore réveillés. Il y a juste quelques promeneurs de chiens qui sont passés. Le marché juste à côté pourtant s'installe et Sandrine qui vend des légumes n'achètera pas de muguet.
J'ai deux plants de muguet, juste pour mon plaisir. Le plaisir de voir du muguet dans mon jardin. Un petit muguet blanc, légèrement rosé, qui d'ailleurs n'est pas du tout en fleurs.
C'est un peu votre jardin secret?
Oui, c'est ça. C'est que pour moi. Totalement égoïste. Le muguet, que pour moi.
Ça porte bonheur, les légumes?
C'est déjà très bon, c'est déjà pas mal. Hein.
Alors, je ne peux pas vous donner le prix du muguet vanté, car pour le moment, les vendeurs ne sont pas là.
Oui.
Il sera sans doute moins cher que chez les fleuristes. Faut pas le dire trop fort. Là, je vais me faire quelques ennemis. Oui. Ce muguet doit provenir des jardins. Il doit être en brin, pas en pot, pas de cellophane. Dominique va tout de même en acheter tout à l'heure.
Bah oui, hein, faut bien faire plaisir à un moment. Hein.
Oh.
Oui,
bah,
bien sûr,
agréable.
Je vais en acheter. Bah, c'est le 1er mai, la fête du travail, et bah, le muguet. Le muguet tout court, le bonheur.
Et ce petit bonheur, il est interdit.
Ah oui, il est formidable pour votre client.
Ah bah oui, il est prêt à en acheter. Hein. Si un vendeur se présente, alors vous allez sur le marché de Vannes oui. Et vous proposez du muguet à Dominique. Alors attention, il est interdit de le vendre à moins de 150 mètres d'un fleuriste. Mmh. Mais autour de la cathédrale, j'ai beau regarder, il n'y a personne et il n'y a pas de fleuriste non plus.
Bon, il fait quel temps, Nicolas?
Oui. Ah ben, il fait presque beau, pas de pluie,
comme souvent
le ciel est un petit peu gris, il fait 10 degrés, mais il fait toujours beau en Bretagne.
Mais oui, toujours, un moment ou un autre de la journée.
Voilà.
C'est certain, on suit ça avec vous en tout cas, Nicolas Bobby, en direct de Vannes pour RTL. Et vous en parliez, hein, qui peut vendre du muguet aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut s'installer? RTL fera tout le point sur cette législation à 8h10.
Alors j'en parlerai à mon cheval puisque les courses ont lieu à Saint-Cloud.
Départ 15h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 3, le 11, le 2, le 9, le 8, le 4, l'outsider de RTL, c'est le 2.
Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h11.
Et dans un tout petit instant sur RTL, immersion aux côtés des référents harcèlement. RTL a passé une journée aux côtés de ses agents qui sont chargés de lutter contre le harcèlement scolaire. Il y en a dans chaque rectorat. Harcèlement qui concerne, on le rappelle, au moins un élève sur 10.
Alba Ventura, les syndicats sont en petite forme hein, pour ce 1er mai.
Ah ben, on est loin de l'unité syndicale contre la réforme des retraites, c'est vrai.
Vous allez nous expliquer ça dans votre éditorial dans quelques instants.
A tout de suite.
RTL Matin revient dans moins de 30 secondes.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc cette immersion aux côtés de ceux qui luttent au quotidien contre le harcèlement scolaire, alors que l'enquête administrative dans le collège de Samara à Montpellier n'a révélé hier aucune défaillance, aucun manquement de l'établissement. C'est en tout cas ce que dit cette enquête administrative. Nous avons voulu savoir comment ça se passait sur le terrain. Qu'est-ce qui est mis en place pour éviter justement de nouveaux drames? RTL a passé une journée avec la référente anti-harcèlement scolaire de l'Académie d'Amiens. Bonjour Nerissa.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
La journée commence au collège Eugène Lefebvre, à quelques kilomètres d'Amiens.
Oui, devant des élèves de 6e, Claire-Emmanuelle Novazic questionne.
Comment on voit qu'un copain, peut-être il se fait harceler.
Toujours la tête ou il est toujours tout seul.
Peut-être il arrive en retard parce que les copains qui l'embêtent, ils sont tous les matins devant la grille.
Pendant une heure, la référente du rectorat donne les conseils de base pour faire face au harcèlement.
Qu'est-ce qu'il faut faire si on est victime de harcèlement?
Il faut en parler.
À qui on peut en parler? On choisit des personnes de confiance à qui on peut en parler. Parce que le but, c'est que ça s'arrête.
Petit à petit, la parole se libère et certains partagent leur expérience.
Moi, en CM1, il y a des gens qui disaient que je courais d'une façon bizarre. Ils m'insultaient d'un surnom, tout ça. J'en avais pas parlé au professeur.
Et donc, tu trouves ça bien qu'on en parle aujourd'hui un peu plus du harcèlement?
Je pense, dans le collège, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, je vais arrêter d'harceler et tout ça.
Car si Claire-Emmanuelle intervient dans ce collège, c'est parce qu'on lui a signalé plusieurs situations conflictuelles.
Plus tôt la situation est prise en charge, plus on a de facilité à la résoudre.
résoudre et moins on arrive sur des situations complexes avec des conséquences très graves qu'on connaît jusqu'au suicide.
La référente va donc intervenir en priorité dans toutes les classes de 6e.
Et Nerissa, la référente aide aussi à la mise en place des dispositifs de lutte contre le harcèlement au collège.
Oui, comme le programme phare qui existe dans tous les collèges de France, ce sont des élèves et des profs formés à détecter une situation de harcèlement et à agir. Christelle organise une réunion pour faire le point.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis l'année dernière, vous, en tant qu'ambassadeur dans l'établissement ?
On a mis en place les rubans verts. Quand on en prend un, on signe une charte d'engagement, on s'engage à, si on est témoin de harcèlement, à en parler, à ne pas harceler.
Trois quarts des situations de harcèlement ont été résolues dans le collège grâce au programme.
J'ai eu quelques personnes aussi qui m'ont témoigné qu'ils s'étaient harcelés.
Mathis, élève de 5e, est ambassadeur.
Et du coup, je leur ai dit qu'ils allaient en parler à leurs parents, etc.
Et ça a pu déclencher quelque chose ?
Les harceleurs ont été virés de l'établissement.
Après une matinée d'échange, Claire Emmanuel rentre au rectorat pour sa deuxième mission de la journée, écouter les parents.
Et pour cette mission, la référente n'est pas seule.
Oui, dans le bureau appelé cellule anti-harcèlement, elles sont trois, dont deux anciennes conseillères principales d'éducation, d'ex-CPE, habituées à agir sur le climat scolaire. Désormais référentes au rectorat, elles répondent aux appels des parents démunis face à une situation de conflit.
Je vous appelle, j'ai eu un mail de votre part concernant la situation de vos enfants. Donc là, il y a eu de la violence dans les vestiaires, c'est ça ? C'est l'autre élève qui veut lui taper dessus. La professeure, elle est au courant. Là, vous attendez ce soir de voir si le professeur vous rappelle. Si vous n'avez pas d'appel, on se recontacte demain.
La majorité des appels concernent le harcèlement scolaire. Mais dans le cas d'un cyberharcèlement, Claire Emmanuel oriente les parents vers la plateforme 3018 qui peut suspendre des comptes ou des publications malveillantes. Et cette année, les signalements augmentent.
Depuis ce début d'année et cette libération de la parole, on a des familles d'élèves auteurs qui nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour leur enfant, qu'est-ce qu'ils risquent, comment faire pour que ça se passe bien aussi pour dans leurs établissements.
En France, chaque rectorat a sa brigade de lutte contre le harcèlement. Au moins 150 personnes sont mobilisées à temps plein.
150 personnes donc dans ces brigades de lutte contre le harcèlement. Merci à vous Nerissa et Mani pour cette immersion.
Il est 7h16.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Alors, rien à voir avec la mobilisation unitaire contre la réforme des retraites de l'an dernier. Cette année, les syndicats vont battre le pavé en ordre dispersé. Ça ne fait plus de la recette, le 1er mai, Alba.
Ce sont les syndicats, surtout, qui ne font plus recette. Le front sacré, ça marche lorsqu'il y a un sujet qui agrège une grande majorité de Français. Ça a été le cas l'an dernier, comme on le disait, contre la réforme des retraites. Mais une fois la réforme adoptée, le soufflet syndical est retombé comme avant. Et en tout cas, vous ne verrez pas cette année les leaders de la CFDT, CGT, FO, CFTC, UNSA, tous au premier rang derrière une même banderole. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas, mais chacun est dans son couloir avec ses propres revendications. Puis alors parlons-en des revendications, parce que ça va du pouvoir d'achat à la paix dans le monde, en passant par l'augmentation des salaires, la lutte contre l'austérité, l'Europe quand même, l'abandon du choc des savoirs à l'école, la défense des libertés et du droit de grève, le cessez-le-feu à Gaza, l'abrogation de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance chômage. Et j'ai dû en oublier.
Bon, alors justement, il y a de nombreux sujets qui devraient mobiliser. Pourquoi les syndicats ne sont pas suivis ?
Parce que, Yves, on assiste depuis quelques années à ce qu'on peut appeler une gilet jaunisation du rapport social. Oui. C'est-à-dire que la contestation s'organise, mais hors du cadre syndical, comme l'ont fait les gilets jaunes en 2018. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit apparaître des mouvements sociaux, presque des groupuscules, comme à la SNCF aux dernières vacances de février, souvenez-vous, on a affaire à des gens qui ne sont pas syndiqués, mais qui sont soutenus par un syndicat, en l'occurrence à la SNCF, c'est Sud, qui refuse toute négociation. On peut appeler ça du syndicalisme de nuisance. Ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de compte à rendre. Au fond, ils agissent exactement comme des activistes. Et ce syndicalisme de nuisance a plus de chances de prospérer que le syndicalisme réformiste, qui par ailleurs est assez malmené par le gouvernement.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
On évoquait la réforme des retraites. Le paritarisme a complètement explosé. Emmanuel Macron n'a jamais cru à la relation avec les syndicats parce que, pour lui, les syndicats constituent des freins. Mais il n'y a pas que ça, Yves. Parce que dans la crise qui frappe les syndicats, il n'y a pas que le fait d'être malmenés ou contournés par le gouvernement. Ils sont aussi challengés par leur base. Les syndicats voient de plus en plus leurs sympathisants voter RN. Et même des syndicalistes qui rejoignent le Rassemblement National, ils sont expulsés. Vous savez que l'Institut Harris Interactive a montré qu'en 2012, parmi les salariés proches d'un syndicat, 12% avaient voté Marine Le Pen. En 2017, c'était 13%. Et en 2022, c'était 20%. Bon, ça interroge forcément dans les centrales syndicales, alors même que le RN a toujours considéré les leaders syndicaux comme des adversaires.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Alba Ventura, et bon 1er mai.
Merci à vous aussi.
Un 1er mai qui, avant de devenir la fête du travail, était, figurez-vous, la journée de l'amour. Oui, l'amour printanier, c'est ce que va nous raconter Laurent Deutsch dans un tout petit instant. Très bon début de journée.
Notre Laurent.
Il est 7h19.
RTL Matin, 7h, 9h.
Là, vous entendez. Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin. J'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité Le Roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15 euros de remise immédiate tous les 150 euros d'achat, là vous vous dites, ok, eh ben y a plus qu'à s'y mettre.
Le Roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment? Pas sur des nouveautés qui datent de piou! Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500€ seulement. Moins de 1 500€ la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
RTL. Entrée dans l'histoire.
Bonjour Landet.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er mai, je vous vois venir, vous allez nous parler de l'histoire de la fête du travail.
Ah oui. Eh ben pas du tout.
Ah.
Je vais pas vous parler de travail, je vais vous parler d'amour, Amandine. Ah. Car figurez-vous qu'avant d'être la fête du travail, le premier jour du joli mois de mai était dédié à l'amour. Ce miracle de la civilisation, comme disait Stendhal. Ah oui, attention, aujourd'hui je vous préviens, je vais faire dans la poésie.
Vous dites donc que vous êtes en vers ce matin, mais depuis quand fêtait-on l'amour le 1er mai?
Mais depuis toujours, ah bon. Qui rime d'ailleurs avec amour. Car le 1er mai, c'est le retour des beaux jours, c'est le cœur du printemps. Oh. Une saison que l'on appelle la saison des amours, justement. Le printemps, c'est la floraison, c'est le soleil qui darde ses rayons, c'est la nature qui renaît, qui se couvre de couleurs et de senteurs, symbole de fécondité et promesse de bonheur et d'avenir. Pendant des siècles au 1er mai, la coutume était de se coiffer d'une couronne de fleurs ou d'en offrir une à la personne aimée.
Et la fleur star du 1er mai, c'est bien sûr le muguet.
Eh oui, cette fleur avec ses petites clochettes, si fraîches, si légères, en un mot, si printanières. Dans la Rome antique, on offrait déjà du muguet. Et en France, cette mode remonte à Charles IX, qui se serait fait offrir un brin de muguet à l'occasion d'un déplacement dans le Dauphiné, un 1er mai 1560. Le roi aurait décidé l'année suivante d'en offrir à son tour aux dames de la cour, et la tradition se serait généralisée. Mais à partir de la Révolution, on n'offrait plus du muguet, mais des églantines. On troque le blanc, couleur royale, pour le rouge, plus cocardier et plus révolutionnaire.
Alors, il va falloir nous expliquer comment on passe de la fête de l'amour à la fête du travail.
Hein. C'est pour le centenaire de la Révolution. En 1889, que le Congrès international socialiste de Paris va faire du 1er mai une journée de revendication des travailleurs. L'heure était en effet aux grandes luttes sociales. Et quand le 1er mai 1891 à Fourmies, dans le nord de la France, l'armée tire sur les ouvriers faisant plusieurs morts, l'églantine rouge épinglée pour le 1er mai prend alors le souvenir du sang versé. Et c'est finalement en 1941, sous le gouvernement de Vichy, qu'est instituée la fête du travail, le 1er mai. Et un jour, chômé et payé. Mais le maréchal Pétain remplacera l'églantine, jugée trop révolutionnaire, par le muguet, la fleur à clochette, faisant ainsi son retour en grâce, non plus pour célébrer l'amour, mais le travail. Oui, la politique a tué l'amour, en tout cas, le 1er mai.
Quel poète, merci beaucoup Laurent. À demain, de quoi parlerons-nous?
À demain, on va parler de la chute de la forteresse de Massada, près de la mer Morte, pendant la conquête romaine de la Terre Sainte. C'était le 2 mai 73 après Jésus-Christ.
À demain Laurent.
Et il est 7h23 sur RTL. Dans un peu plus de 5 minutes, le journal, et on l'a appris hier soir, une marche blanche aura lieu samedi à Châteauroux en hommage à Matisse, cet adolescent de 15 ans, tué à coups de couteau par un autre jeune du même âge, jeune qui a été mis en examen et incarcéré. Dans l'actualité également, le décès cette nuit de Paul Auster, le romancier américain, l'un des plus francophiles, est mort à l'âge de 77 ans du foot, avec ce gros match ce soir, gros enjeu aussi. Le PSG affronte Dortmund en Allemagne, demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce sera à suivre bien entendu sur RTL, soirée spéciale dès 20h. La météo, Louis Bredin, toujours bien agité avec cette alerte aux orages qui concerne 14 départements.
Ben oui, on va avoir conflit entre de l'air plus frais dans l'ouest parce que nous allons repasser en dessous des moyennes de saison, l'air doux qui est encore dans l'est, et à la rencontre entre les deux, on craint ces orages effectivement entre la Bourgogne, l'Île-de-France et la Normandie ce soir.
Il y a donc de l'orage dans l'air, mais rassurez-vous, pas dans le grand studio des Grosses Têtes, 15h30, 18h, pour retrouver leur bonne humeur et les histoires drôles de Jean-Marie Bigard.
Le mec au théâtre, il est affalé. Tu sais, à l'orchestre, il tient trois rangs, quoi. Il y a l'ouvreur qui arrive, il dit « Monsieur, un petit peu d'élégance, quand même. Vous êtes là, vous tenez trois sièges en même temps. Donnez-moi votre ticket !» Il lui donne le ticket, il dit « En plus !» Vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher, monsieur. Dieu, je suis plus à ça près. Je viens de tomber.
Elle est mignonne, celle-là.
Inattendu. Oui, elle est inattendue.
Bigard,
oui, on aurait pu penser à autre chose.
Absolument.
Rendez-vous donc dès 15h30 avec nos grosses têtes. C'est jusqu'à 18h tous les jours. Retour de Laurent Ruquier. Il est 7h25.
RTL. Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store, pergola, brise-soleil, sur mesure et motorisé.
Bon, on va se regarder dans les yeux.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez nous raconter ?
De la météo épouvantable, de la pluie épouvantable. Mais oui, il pleut sur toute la façade atlantique,
oui.
Il pleut sur Languedoc-Roussillon,
oui.
Le massif central,
oui.
Sur les Alpes, sur la Corse également, sur les Pyrénées-Orientales. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça fait 2-3 jours qu'il pleut sur ce département qui avait été, si je puis dire, épargné pendant quasiment 2 ans, hein, avec un gros déficit. Là, au moins, on a retrouvé des quantités de pluie normales pour cette période. Et puis, ces pluies, alors qui concernent surtout, vous l'avez vu, la moitié sud, eh bien, ça va remonter vers le nord en cours d'après-midi pour finalement tout au long de la journée, des précipitations quasiment partout à un moment ou à un autre. Forte pluie encore une fois du côté de l'Occitanie. Et puis attention donc aux orages, on en parlait.
Alors on a 14 départements en vigilance orange, c'est bien ça ?
Exactement, c'est-à-dire que ces pluies en remontant vers le nord, accompagnées avec de l'air frais qui arrive lui par l'Atlantique, rencontrant l'air doux qui est encore dans le nord-est, eh bien on craint cet axe orageux donc qui va circuler principalement entre la Bourgogne, l'Île-de-France, la Picardie, vous voyez, ça remonte là dans cette diagonale, la Normandie dit également, avec des orages qui pourraient temporairement être violents, donc avec de la pluie, de la grêle. Ça passera donc sur ces régions Bourgogne, Île-de-France, Normandie en cours de soirée, 20h et 22h à peu près, avec donc de fortes précipitations. Et puis côté température, donc gros contraste entre l'ouest où les températures vont baisser. Nous serons cet après-midi entre 13 et 15 degrés seulement, donc en dessous des moyennes de saison, 3-4 degrés en dessous. Et les régions de l'est où nous aurons encore une grande douceur, 16 à 22 degrés en moyenne. Et puis on ira même jusqu'à 25-26 degrés en plaine d'Alsace, où là le soleil devrait résister un peu plus longtemps, donc ça va avoir le temps de chauffer avant l'arrivée éventuellement des averses.
25-26 degrés, ce sont des températures de saison.
Ah non, largement au-dessus des moyennes.
D'accord.
Autant on est en déficit dans l'Ouest, autant on va être largement au-dessus des moyennes. En pleine d'Alsace, on devrait avoir plutôt 16-17 degrés. Donc oui, qu'on sera quasiment 8 à 10 degrés au-dessus.
Ce temps perturbé va se prolonger pendant combien de temps après ?
Ouais, demain, c'est encore très perturbé avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie. La neige, elle va tomber. Écoutez bien, demain à partir de
la neige.
Mais oui.
De mai.
J'aimerais tellement retourner skier, mais.
Bah oui.
À quel
1400 mètres sur les Pyrénées, 2000 mètres sur les Alpes, et puis des grosses quantités, donc de grosses chutes de neige. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ce week-end, j'y vais peut-être prudemment, on pourrait avoir un temps un petit peu moins agité, peut-être un peu plus d'éclaircies. Donc ça irait plutôt dans le bon sens pour ceux qui espèrent un petit air de printemps.
Il sait nous parler, Amandine.
Oui, c'est bien, vous progressez. On parlait d'amour avec Laurent Dutch. Eh bien, Julie Pietri, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, a elle aussi chanté l'amour.
C'est un duo avec Herbert Léonard.
Exactement.
J'avais 12 ans et demi, mais enfin, j'aimerais bien.
Bon, sinon, Julie Pietri, c'est ça.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. N'oubliez pas votre brin de muguet, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en plus, ça sent bon. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. RTL Foot spécial Ligue des Champions. Ce soir, on vous fait vivre la demi-finale aller Dortmund-PSG. Les Parisiens, ils sont aux portes de cette finale qui leur fait de l'œil, qui les fait tant rêver. Un sacre qui serait inédit en Ligue des Champions. Et un rêve qui semble de plus en plus devenir réalité, Philippe Sanfourche.
Oui, c'est une petite ritournelle qui circule secrètement au sein du club et globalement chez tous les supporters. Ce sentiment, eh bien que c'est l'année du PSG. Les signaux sont là pour la première fois depuis des lustres. L'infirmerie est vide dans le sprint final. Les joueurs cadres sont en forme. Le feuilleton Mbappé a fini par s'éteindre. Pas de polémique, pas d'affaires. On ne parle que football sous l'impulsion d'un homme, Luis Enrique, qui a déjà digéré le coup de force de ses joueurs à Barcelone et entend rééditer l'exploit ce soir à Dortmund.
On doit essayer de bien gérer nos émotions, la pression, et être ambitieux. Il ne faut pas voir la pression comme une menace. Je crois que nous arrivons au meilleur moment de la saison.
Devant 80 000 personnes ce soir, Paris va devoir tenir comme en décembre dernier avec un match nul qui avait permis de sortir des poules. Il sera alors temps de finir le travail dans une semaine à Paris pour décrocher la timbale. Une finale de Ligue des Champions à Wembley le 1er juin prochain.
Philippe Sanfourche du service des sports de RTL que vous retrouvez aux commentaires de ce Dortmund-PSG avec aussi Nicolas Georgerot. RTL Foot spécial dès 20h autour d'Éric Silvestro sur RTL et le coup d'envoi de la rencontre est à 21h. Hier, dans l'autre demi-finale, le Real Madrid a arraché le nul de partout sur la pelouse du Bayern Munich.
L'actualité politique maintenant avec le Rassemblement National en meeting à Perpignan cet après-midi.
Son président et tête de liste pour les européennes, Jordan Bardella, doit présenter ses 34 premiers colistiers. Une annonce importante qui tombe à une date fétiche pour la famille Le Pen. Marine sera également présente à Perpignan. Mais Julien Fautra, elle ne sera pas la seule sur le terrain aujourd'hui.
Oui, il y aura en effet deux Le Pen aujourd'hui. Adon Rémy Lapucelle, Marion Maréchal, ex-maréchal Le Pen, qui convoquera l'héritage de son grand-père. Son premier défilé, elle l'a fait dans sa poussette, me raconte un proche de la tête de liste. Un banquet est même organisé aujourd'hui devant la statue de Jeanne d'Arc. Hommage appuyé et résumé ainsi chez Reconquête. Quand d'autres n'assument pas l'héritage du grand-père, Marion, elle, n'en a jamais eu honte. Cette honte que Marine Le Pen a éprouvée. Son père qui s'incruste sans prévenir lors de son meeting, nous sommes le 1er mai 2015. Grand manteau rouge, Jean-Marie Le Pen, on ne voit que lui.
Jeanne, au secours !
La mise en scène est restée dans les mémoires. Il sera ensuite exclu du parti qu'il a créé. Et depuis, les défilés du 1er mai, c'est terminé. C'est ça aussi la volonté de normalisation du Rassemblement National. L'année dernière, une gerbe avait été déposée en catimini dans la journée, sans micro ni caméra. Selon nos informations, à ce stade, il n'est pas prévu de faire référence à Jeanne d'Arc aujourd'hui, lors du meeting ici à Perpignan.
Julien Fautra du service politique de RTL. Le RN toujours en tête des intentions de vote des Français à 31% selon le dernier sondage Toluna Harris Interactive pour RTL, loin devant la liste de la majorité présidentielle à 16%. Jordan Bardella, Valérie Ayé, Raphaël Glucksmann, les sept principales têtes de liste de ces européennes, toutes réunies sur RTL. C'est ce dimanche pour le premier grand débat de ces élections. Grand jury spécial dès midi en simultané sur Paris 1ère avec Le Figaro, M6 et LCP. Aujourd'hui, plusieurs candidats de la gauche, ils défileront pour le 1er mai. 270 manifestations prévues partout en France. Les renseignements s'attendent à des cortèges moins fournis que l'an dernier et surtout plus calmes.
RTL 7h34, Samara n'était pas en situation de harcèlement scolaire selon l'enquête de l'Éducation nationale.
Les conclusions rendues hier ne relèvent aucun manquement de la part du personnel de l'établissement. Collège de Montpellier devant lequel Samara, 13 ans, a été violemment agressée le mois dernier. Sa mère s'indigne. Tout comme Nora Fraisse, elle a fondé une association pour venir en aide aux victimes de harcèlement scolaire après le suicide de sa fille. Elle était l'invitée de Jérôme Florin tout à l'heure sur RTL.
J'ai lu la synthèse et j'ai noté tous les faits constitutifs d'un harcèlement. C'est-à-dire une personne qui est victime de faits de violence par un groupe, une meute. Il est quand même indiqué des signaux faibles, une chute des notes, de l'insolence, des retards, des absences. Et puis je trouve que la jeune fille est quand même souvent accablée en indiquant qu'elle n'a pas voulu donner le nom de ses agresseurs, elle n'a voulu rien dire, mais quand on connaît ce phénomène, on sait qu'il y a la peur des représailles, la honte, la culpabilité. Donc ces élèves auraient dû faire l'objet, un, de sanctions et d'un signalement auprès du procureur.
Une interview complète à réécouter sur RTL.fr et l'application RTL.
C'est l'information de la nuit, l'écrivain Paul Auster, le plus francophile des Américains, est décédé à l'âge de 77 ans.
Oui, on l'a appris ce matin, l'auteur de Léviathan, Moon Palace, le livre des illusions. Il s'est éteint hier soir des suites d'un cancer du poumon. Traducteur de Sartre, Mallarmé, Simenon, Paul Auster avait vécu en France dans les années 70. Il parlait très bien français. On revient sur sa carrière incroyable dans le journal de 8h sur RTL avec notre spécialiste littérature Bernard Lehu qui avait eu la chance de rencontrer Paul Auster dans sa maison de Brooklyn.
Une visite de haut rang qui se prépare en catimini dans une station de ski des Hautes-Pyrénées.
À La Mongie, station fermée en pleine intersaison, et c'est le président chinois Xi Jinping qui doit rencontrer Emmanuel Macron, les deux dirigeants attendus la semaine prochaine. Mais Patrick Tégéro, les membres de l'équipe de sécurité du président chinois sont eux déjà arrivés.
Eh bien, ils se sont installés samedi dernier et même dans une station de ski déserte, ils ne se font pas remarquer.
On en parle, mais on ne les voit pas.
Pierrick de Dieu est restaurateur, il tient la Casa des Cimes sur les Hauts de la Mongie.
J'en ai tellement entendu que je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Alors qu'est-ce qu'on raconte ?
On raconte qu'on va être envahi par 400 Chinois. Il était prévu peut-être aussi qu'il fallait qu'on sorte de la Mongie pendant les deux jours de la présence du président. C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.
Baptiste, lui, habite à Bagnères.
Bon, c'est la relation diplomatique. Hein. Il y a tous les reproches qu'on peut faire à un régime pseudo-communiste, mais bon, si ça peut amener des débouchés en plus dans le coin, c'est pas plus mal.
Nicole tient une boutique de prêt-à-porter à Bagnères. Elle est la cousine germaine de la mère d'Emmanuel Macron.
Il venait tous les ans pendant les vacances.
Vous aimeriez que le président chinois franchisse la porte de votre magasin ?
Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, le président chinois ?
En tout cas, vous n'avez pas eu passer de Chinois venus en repérage ?
Pas dans le magasin, mais ils sont venus il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines.
Une information recoupée à la pâtisserie bordelaise de l'autre côté des allées, dévalisée par les Chinois et qui ont particulièrement apprécié les petits cochons en chocolat praliné, spécialité de la maison.
Mais qui n'apprécierait pas les petits cochons en chocolat praliné ? Le reportage
tout à fait
de Patrick Tégéro dans la station des Hautes-Pyrénées où le président chinois est donc attendu la semaine prochaine.
Absolument, et ce journal nous était proposé par Rachel Sadodine. On vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure,
Rachel. C'est un véritable effondrement, hein, celui de la construction de logements neufs en France. Les derniers chiffres sont littéralement dramatiques. Alors, comment l'expliquer ? François Langlais est avec nous dans un tout petit instant pour l'Angle Éco. Il est 7h37. Bonne journée à tous.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Carrefour. Pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99€ au lieu de 599,99€. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58-CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Quand vous avez un brique-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ?
Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
RTL Matin.
RTL 7h38, l'anglais quoi avec vous François Langlais?
Bonjour à tous.
Cher François, la construction de logements est littéralement en chute libre en France.
Ah, c'est un effondrement. Sur un an, à la fin mars, 283 000 logements avaient été mis en chantier. C'est une chute de 23% sur 12 mois. Et c'est encore plus spectaculaire par rapport aux chiffres de l'avant-Covid en 2019. Ce sont les maisons individuelles qui chutent le plus d'ailleurs, à moins 33%. Les appartements sont à moins 22, tandis que ceux qui limitent un peu la casse, eh bien, ce sont les logements en résidence pour les étudiants ou pour les seniors. Et ça ne va pas mieux pour les permis de construire, qui font également le plongeon.
Mais ça représente quoi ces chiffres par rapport aux vrais besoins des Français ?
Écoutez, je vous disais, voilà, on en a construit 280 000 sur un an. On estime les besoins aux alentours de 500 000 logements par an. À cause de la démographie, de ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire que la taille moyenne d'un foyer se réduit. Ça veut dire que nous avons produit, sur l'année révolue, près de deux fois moins de logements que les besoins français. Et en plus, c'est pas la première année de déficit.
Mais ça va déboucher sur une crise du logement, tout ça?
Oh, elle est là, vous savez. Hein. Elle est là, faute de pouvoir acquérir, bon nombre de ménages ne quittent pas leur logement loué, hein, ce qui embouteille aussi le marché de la location, qui peut pas accueillir les nouveaux. En fait, la paralysie se diffuse. Sans compter les conséquences sociales dans le secteur. Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier, Nexity, ils ont tous annoncé des suppressions d'emplois. Et que dire de leurs sous-traitants? Oui. En fait, c'est tout le secteur qui souffre.
Bah alors on en vient à l'essentiel, pourquoi une telle crise, François?
Vous savez, c'est ce qu'en anglais on appelle la tempête parfaite, avec plusieurs facteurs qui arrivent en même temps. Bah, d'abord, côté acheteur, la hausse des taux de crédit a renchéri les acquisitions. Elle a fait perdre au moins 20% de pouvoir d'achat immobilier.
Oui.
Et puis, les banques refusent les dossiers à l'appel. Elles sont prudentes sur les taux d'endettement. L'apport moyen, il est maintenant de 40 000 euros. Pour un jeune ménage modeste, c'est inaccessible. Côté constructeur, c'est pas mieux parce que le coût des matériaux a augmenté alors que les normes techniques se renforcent et puis renchérissent également le prix final. Pour ne rien dire du foncier, hein, c'est-à-dire du terrain.
Les terrains aussi ont augmenté ?
En fait, oui, ça a augmenté, mais c'est surtout qu'on a un mal fou à trouver du terrain à bâtir.
Oui.
C'est l'empire du ZAN, vous savez, zéro artificialisation nette des sols. C'est une règle qui s'impose largement en France et qui interdit de facto la construction pour des raisons écologiques. En plus, dès qu'un projet naît dans une zone urbanisée, les recours juridiques se multiplient. Ils émanent des associations ou des riverains à cause des nuisances qu'on redoute. Vous voyez que tous les facteurs se conjuguent, et j'allais oublier, il y en a un qui est essentiel, c'est la désertion des investisseurs.
Bah, les investisseurs sont eux qui achètent pour louer normalement.
Oui, et ben ils sont plus là. Ils ont quitté le marché immobilier à cause des prix, à cause des contraintes locatives comme le blocage des loyers, de la fiscalité. Quant aux investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, etc., ben ils sont partis eux aussi, parce qu'ils veulent 4 à 6% de rentabilité par an, ce que l'immobilier n'offre plus.
Mmh.
Il ne reste donc plus que la Caisse des dépôts publics et puis les organismes de logements sociaux, mais eux aussi, hein, ils ont fortement réduit la voilure en construction. Et ce qui est inquiétant, c'est que compte tenu de l'inertie, il faut en moyenne 5 ans pour construire un logement avec les formalités incluses, et bien compte tenu de cette inertie, le déficit actuel de construction neuve, il va se répercuter sur le marché du logement pendant des années.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, François Langlais. Il est 7h42.
Dans un instant sur RTL, Michel Picon, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Vous êtes le président de l'UDP qui regroupe près de 4 millions d'entreprises, 2 entreprises sur 3 en France, hein, des artisans, des commerçants, mais aussi des professions libérales, professions qui d'ailleurs sont pour beaucoup sur le pont aujourd'hui en ce 1er mai. Le journal Les Échos vous présentait il y a quelques jours comme la petite organisation patronale qui défie le MEDEF. On va en reparler des sujets sur le fond. D'un mot, c'est quoi la différence entre un patron du MEDEF et un patron de l'UDP?
Le patron de l'UDP, ce matin, il travaille. Celui du MEDEF, il lit Les Échos.
À tout de suite.
Ah, c'est formidable.
RTL Matin.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur rénoval.com.
RTL Matin.
RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, Michel Picon.
Michel Picon, je le rappelais, vous représentez près de 4 millions d'entreprises, hein, 3 700 000, soit les deux tiers des entreprises françaises, des artisans, des commerçants, mais aussi des professions libérales. Et à ce titre, vous êtes la première force patronale de notre pays. Pourtant, quand on dit patronat, on pense plutôt MEDEF ou CPME. Comment l'expliquez-vous ? C'est plus dur de se faire entendre quand on est une petite entreprise ?
Oui, absolument. Parce que les règles de représentativité qui permettent de donner la prééminence au MEDEF ne sont pas favorables aux petites entreprises. Vous le disiez tout à l'heure, 2 entreprises sur 3 sont des TPE. Et pourtant, avec une règle qui privilégie dans la représentativité le nombre de salariés, eh bien, le MEDEF est la première organisation patronale, ce qui ne se traduit pas dans la réalité des petites entreprises. Et nous avons, bien sûr, c'est ma mission de faire entendre mieux les petites entreprises, de faire comprendre que dans ces petites entreprises, on n'a pas de service RH, on n'a pas des staffs, comme l'on dit, et qu'il faut que toutes les normes qui s'appliquent sur les entreprises, elles soient faites au regard de ce que peuvent faire les petites entreprises. Les grandes, elles auront la capacité de s'adapter. Nous, c'est plus compliqué. Donc, c'est difficile pour nous de se faire une place à côté du MEDEF, mais je m'y emploie.
Et ça ne vous a pas empêché, justement, il y a quelques jours, de signer avec les syndicats un accord sur le CETU, le compte épargne temps universel. Le MEDEF et la CPME, les deux autres organisations patronales, n'en voulaient pas, et elles vous accusent d'ailleurs d'avoir été déloyales. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ?
Elles n'ont pas raison.
Oui.
Elles ont tort, parce que nous avons été loyales jusqu'à la fin de la négociation. Nous avons annoncé que nous allions dans le mur, qu'on allait se scratcher, qu'il faut faire un peu des concessions. Enfin, le paritarisme, on ne peut pas dire en permanence nous y sommes attachés, et quand on est en négociation, se mettre dans des postures où on ne lâche rien, de manière à ce que vos partenaires, évidemment, vous lâchent. Nous, au terme de cette négociation qui était terminée sur un échec, et cet échec est grave parce qu'il emporte la réforme de l'assurance du chômage que nous avions contingentée dans un accord au mois de novembre, l'échec sur la négociation des seniors fait que cet accord que nous avions passé en novembre, qui, je le rappelle, comportait une baisse de cotisation pour toutes les entreprises, eh ben c'est mort. Et donc nous avons repris notre bâton de pèlerin. Alors ça surprend tout le monde, parce que de quoi se mêle l'UDP, le dialogue social, c'est nous, MEDEF. Bien non, il y a 2/3 des entreprises qui considèrent qu'elles doivent prendre leur avenir en main, et nous avons conduit ces négociations, pas que sur le CETU, aussi des dispositions sur la reconversion professionnelle, la prévention de l'usure professionnelle, et puis la mutualisation des indemnités de licenciement lorsque vous recrutez un senior et qu'il est frappé d'inaptitude professionnelle, que le dernier employeur ne subisse pas les conséquences de tout cela.
Vous évoquez le dialogue social qui a été, on peut le dire quand même, sacrément malmené ces dernières années. On a entendu des critiques et du côté des syndicats et du côté du patronat, pointant souvent Emmanuel Macron, le gouvernement. Le MEDEF a aussi sa responsabilité, c'est ce que vous nous dites ce matin ?
Oui, dans l'échec de cette négociation, oui. D'une manière générale, le dialogue social aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie sociale, depuis l'arrivée du président Macron, ça a plutôt été malmené. Toute une équipe de conseillers autour du président estime que ses partenaires sociaux sont des empêcheurs de tourner en rond, de dupliquer une politique qui a été établie selon des schémas parfois un peu universitaires et dont on se rend compte dans l'application que ça fonctionne pas bien. Les gilets jaunes sont arrivés, et puis là, on s'est dit, il faut quand même qu'on trouve des pompiers pour essayer de calmer tout ça. Et là, on a retrouvé un peu les vertus des partenaires sociaux, la vertu du dialogue. Et moi, je suis meurtri de l'échec de cette négociation, parce que, au fond, le MEDEF, la CPME, qui ont bloqué toutes les négociations, donne raison à ceux qui disent que les partenaires sociaux, c'est un truc désuet qui sert plus à rien. Et c'est le contraire que j'ai voulu démontrer. Et j'ai trouvé dans les partenaires sociaux, dans l'ensemble des organisations syndicales, y compris celles qui sont réputées les plus dures, des gens avec qui on peut discuter, à condition de les écouter aussi.
Et de faire quand même des concessions. Vous le disiez, ça va quand même être une contrainte pour les artisans dans ce compte épargne temps universel ?
Non, ça ne va pas être une...
On rappelle le principe peut-être pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cumuler et mettre sur un compte un certain nombre de jours, même quand on change d'entreprise, ça va nous suivre tout au long de la vie, c'est ça l'idée ?
C'est ça. Non, ça ne va pas être une contrainte, d'abord parce que ce n'est pas des années que l'on va pouvoir économiser sur son CETU, même si pendant 20 ans, on met une semaine de congé payé sur son CETU, au bout de 20 ans, on aura 3 mois et demi à disposition, ce qui permettra peut-être d'aménager son temps de travail en fin de carrière, de l'adapter à ses besoins physiques, parce que plus on vieillit, bah plus c'est compliqué, et donc avoir une fin de carrière avec du temps aménagé, ça sera grâce au CETU. Ça ne coûte rien de plus à l'entreprise. Lorsque un salarié a fait des heures supplémentaires et qu'il vous dit, vous ne me les payez pas parce que je n'en ai plus besoin aujourd'hui, j'ai 54 ans, mon crédit est payé, enfin j'ai plus besoin d'épargner, vous me le mettez sur mon CETU, l'entreprise qu'elle lui verse ses heures supplémentaires à lui ou qu'elle les verse sur son compte CETU, c'est exactement la même chose.
Donc c'est tout bénef pour l'entreprise, si j'ose dire. Enfin,
tout bénef, c'est une petite contrainte, mais le fait
c'est
de...
C'est un avantage social qu'elle donne
oui,
à
les
salariés.
Oui, le fait de gérer en disant c'est pas sur son bulletin de salaire, c'est sur son CETU, c'est une information à donner à ceux qui font la paix. Moi, je pense aussi, ce qui est bon, parce que les grandes entreprises, elles ont un CET qui est géré par le RH. Au nom de quoi, ce qui est bon pour les grandes entreprises ne le serait pas pour les petites. Moi, j'ai des problèmes de recrutement. J'ai des tas de métiers qui sont en tension, qui n'arrivent pas à recruter. Et la plupart des métiers, des jeunes qui rentrent veulent mieux gérer leur temps, mieux conjuguer leur vie professionnelle et leur vie personnelle, le CETU est une forme de réponse et de liberté. Et puis, je pense aussi qu'il y va de l'attractivité dans nos petites boîtes. Moi, ça me gêne, et je veux pas que cette situation dure, qu'un jeune qui veut se lancer dans la maçonnerie, dans le bâtiment, ben, il se dise, je vais chez Bouygues, pardon de citer une entreprise, parce qu'il y a des avantages sociaux que je vais pas trouver dans la petite entreprise de moins de 10 salariés, localement, à côté de chez moi. Ça, il faut que nous le corrigions.
Michel Picon, vous parliez justement du bâtiment. L'UDP regroupe plusieurs fédérations, dont celle du bâtiment, et on l'évoquait à l'instant avec François Langlais. Hein. Le secteur ne va pas bien, le nombre de permis de construire est en chute libre, moins 20% d'après les chiffres qui ont été publiés hier par le ministère de la Transition écologique. On dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce que vous êtes inquiet, très inquiet pour les prochains mois ?
Ah ben je suis inquiet pour les petites entreprises parce que, bien évidemment, cette crise du logement, elle touche toute la filière. Et lorsque des grands donneurs d'ordre, des grandes entreprises de la promotion immobilière arrêtent leur activité, ben derrière, c'est le peintre en bâtiment, c'est le plombier qui a un petit marché et qui sont des marchés qui vont perdre. Donc, oui, on va avoir... nous connaissons déjà, dans la dernière enquête Cerfi que nous faisons tous les trimestres pour connaître la situation de nos petites entreprises, on a déjà moins 1,5% de baisse d'activité dans nos petites boîtes.
On parle de 300 000 emplois menacés en 3 ans dans le
secteur. Oui, sur l'ensemble de la filière, je pense que c'est probable et il y en a beaucoup dans les petites boîtes.
Ça veut dire beaucoup de petites entreprises qui risquent de fermer ?
Oui, bien sûr. Si cette crise du logement persiste, si des moyens ne sont pas mis en œuvre par le gouvernement, je pense que le gouvernement a sous-estimé.
Qu'est-ce qu'il peut faire, le gouvernement ?
Je pense qu'il faut qu'il agisse sur les banques, d'abord, qu'elles soient un peu moins précautionneuses sur leur capacité à prêter, notamment à des jeunes couples, que le taux d'endettement soit un peu revu, qu'on regarde un peu mieux le reste à charge plutôt que d'avoir une comptabilité, enfin, un prêt accordé en fonction d'un dépassement de 34%, enfin, il y a des tas de facteurs
sur lesquels il faut agir. C'est le gouvernement qui peut sauver ces 300 000 emplois aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites ?
Il peut aussi, avec un certain nombre de dispositions fiscales qui vont permettre de ramener des investisseurs sur le marché de l'immobilier. Je voudrais dire aussi que en termes de... Le gouvernement a dans son ligne de mire le plein emploi, mais le logement est un des freins principaux à l'emploi. Je veux dire, il y a trois freins principaux, c'est le logement, la garde d'enfants et la mobilité. Et ne pas avoir, être en pénurie de logements, c'est aussi ne pas permettre à des gens de se déplacer d'un lieu où il n'y a pas d'emploi vers un lieu où il y a de l'emploi, parce que où je vais habiter si j'accepte ce travail. Et donc il faut que le gouvernement pilote ces deux sujets, sinon on va vers des difficultés, et ce qui va être dans un certain nombre de professions, où on va avoir une accentuation des difficultés de recrutement. Donc d'un côté on va perdre des emplois parce que la filière logement va s'effondrer. Mmh. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui vont rechercher des collaborateurs et qui ne pourront pas les trouver parce que les gens ne pourront pas se déplacer par carrière.
Donc si on règle pas ces trois piliers...
Là, vous l'avez dit, quand le bâtiment va, tout va. Et il faut absolument que le gouvernement mette un grand plan de reconstruction de logements.
Merci beaucoup Michel Picon d'avoir été avec nous ce matin.
L'appel
Merci.
De Michel Picon sur RTL. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
Ah bah oui, ce sont des choses qui arrivent.
Oui, ça va bien.
C'est dangereux.
Un peu.
On s'en remet ?
Généralement, oui.
Dimanche à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes, programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter ? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est dimanche entre 12h et 14h sur RTL.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable, hein ?
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h54, Philippe, notre invité, Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité, est resté pour votre chronique.
Ma petite entreprise.
Alain Souchon.
Bon, oh non.
Tu nous manques. Emprisonné à Fleury-Mérogis. Pour avoir trop regardé sous les jupes des filles. Pas très mytho, Alain. Bonjour Michel. Alors c'est formidable ce qui nous arrive ce matin. Je vous explique, c'est assez fou, parce que l'invité prévu était Michel Picon, et c'est vraiment Michel Picon qui est là au micro, parce que hier ils m'ont changé l'invité à la dernière minute, et voilà, sinon on comprend pas. Et,
Non mais là c'était bien géré.
Voilà, là c'était, oui, c'est formidable, c'est le vrai Michel Picon, c'est même pas un sosie.
Oui, Michel Picon lui-même.
Alors on peut survoler rapidement l'organigramme de l'U2P, il y a donc le président Michel Picon, le vice-président Gérard Pastis, le trésorier Stéphane Vieilleprune et le secrétaire adjoint Gilles Volvic, qui bizarrement a bien du mal à s'intégrer à cette belle équipe. Michel Picon, vous avez succédé à la tête de l'U2P au célèbre Dominique Métayer, tout le monde le connaît, qui avait lui-même pris la succession du célèbre Laurent Munero. Que des stars. Bah, dis donc, c'est un syndicat ou c'est le Festival de Cannes ? Voilà. Alors, pour les deux jeunes qui nous écoutent et qui se demandent, mais comment devient-on Michel Picon ? Comment devient-on président de l'U2P ? Oui. Bien, c'est simple. Il faut faire comme Michel, il faut faire une campagne, il faut mettre en place une campagne de pub avec un slogan et un artiste connu. On écoute.
La mer Picon, la mer Picon, c'est bon.
Charles qui se faisait des couilles en or en faisant de la pub.
Bah oui, vas-y,
alors, c'est pas hyper moderne, mais il a gagné, Michel. Seul le résultat compte. En cas de défaite, vous auriez été la mer Picon, bien sûr. Oui, c'est totalement nul, mais c'est le premier. Mais je ne devrais même pas être là. Vous avez ri à pire avec Alex Vizorek.
Ça, c'est sûr. Michel Picon a confié dans Les Échos que l'une de ses priorités serait de faire reconnaître l'U2P à sa juste valeur, notamment face au MEDEF.
Oui, et c'est vrai que c'est injuste, mais on connaît plus les dirigeants du MEDEF. Et vous allez voir que dès qu'on cite leur patronyme, on a l'impression d'entendre cette petite musique en fond. Ils ont des noms qui. Ça sonne patron.
Oui.
Geoffroy Rue de Bézieux, Ernest-Antoine Sellière de Laborde, Laurence Parizeau, Pierre Cataz, Ce sont des célébrités. Pardon, mais si Challenge ou Les Échos devenaient des magazines people avec des paparazzi, c'est Geoffroy et Ernest Antoine qu'on verrait à poil sur une plage privée des Caraïbes et pas vous, Michel, à la grande mode. Geoffroy, Route Bézieux, Ernest Antoine Célière de la Borde, avec des noms comme ça, je suis sûr que même leur zgeg, il a un petit pull sur les épaules, un polo Lacoste et des chaussures bateau sous les... Vous m'avez compris.
Oh bon non, alors nous sommes le 1er mai, la mobilisation des syndicats semble moins unitaire cette année après l'union sacrée contre la réforme des retraites l'an dernier.
Oui, à Paris, le cortège partira de la place de la République pour rejoindre Nation. 3 km de parcours où, selon l'unité de base du syndicat, 22 834 merguez. Et oui, je vous l'apprends peut-être, mais à la CGT, on mesure tout en merguez. Par exemple, Sophie Binet mesure 12 merguez. Et la moustache de Philippe Martinez, c'est exactement mesuré à 2 merguez et demi. Mais vous le disiez, Yves, pas d'union syndicale cette année et des mots d'ordre plus dispersés comme non à l'austérité pour une Europe plus protectrice, paix en Palestine, arrêtez de nous casser les couilles avec Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, ou vent Kangoo, 55 000 km pris à débattre, ça fait partie des revendications.
Absolument. Alors, autre sujet d'actualité, la surpopulation carcérale qui a atteint un nouveau sommet en France au 1er avril, avec 77 450 détenus pour seulement 61 570 places.
Très joli zouk, Collet Serré, qui évoquait l'univers carcéral et on ne le savait pas.
Non.
Philippe Laville nous en parlait, Jocelyne Béroir. Contrairement au meeting de Valérie Ayet et au concert de Vincent Niclot, les prisons sont pleines à craquer. Alors la densité carcérale globale s'établit à 125%. Et il n'y a pas encore Gérard Depardieu. Donc ça risque bientôt de grimper à 150, voire 175%. Ils ont prévu de faire rentrer Gérard dans sa cellule en le oignant avec du Saint-Doux et à l'aide de deux chausse-pieds Gérard.
Alors, on redonne le chiffre, car il est éloquent. 77 450 détenus pour seulement 61 570 places.
Et oui.
Oui. Et oui, cette surpopulation doit forcément créer, comment dire, une tension.
Ça crée des tensions, voilà. C'est le mot Yves. Et quand on est serré et en tension... Il est assez logique, il y est régulièrement. Vous, regarde, Cyprien me voit arriver. Et oui, il la voit arriver, bien sûr. Et quand on est serré en tension, eh bien on s'emboîte. Inévitablement, c'est une question de survie pour ne pas mourir écrasé. Eh bien, quand tu es dans une petite place, il y a